journal Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Un petit matin à la une, matin de deuil ou de déprime dans l'Aude après les crues catastrophiques d'hier. 11 morts, 3 disparus autour de Carcassonne, des maisons abandonnées, des sinistrés dans des salles communales. Nous serons sur place à Trèbes dans un instant, où la question de l'alerte continue à se poser. A-t-elle été lancée à temps ? L'événement était difficile à prévoir localement, selon Météo France. Des inondations qui ont sans doute encore repoussé l'annonce du remaniement, vous en parlerez, ainsi que du budget avec votre invité dans 20 minutes.
La députée La République En Marche, Amélie de Montchalin, dialoguez avec elle. Toutes vos questions, pouvoir d'achat, impôts, retraite, 01 45 24 7000, le standard est ouvert.
À la une également, le plan banlieue, tout n'était pas à jeter dans les propositions Borloo. La preuve, les choses commencent à bouger. La fièvre porcine est à nos portes, interdiction de chasser, de se promener, de cueillir dans plusieurs communes de l'Est. La dépression, les Français y sont de plus en plus sujets. Et puis la dame aux camélias façon Kubrick au théâtre à la fin de ce journal.
France Inter.
Il porte des noms inoffensifs, le ruisseau du Trapel ou le ruisseau du Merdeau, transformé en torrent furieux hier alors que le jour n'était pas levé. À Villegayenc, où 2 personnes sont mortes, un pont s'est effondré. L'eau est rentrée dans les maisons, désertée par leurs habitants. Des militaires ont patrouillé toute la nuit à la demande du maire Michel Proust.
La peur des cambriolages, ça les tracasse beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai demandé au service de la préfecture de nous mettre des militaires à disposition pour pouvoir patrouiller dans le village, parce qu'il n'y a plus aucune porte. Toutes les maisons ont eu entre 1m50 et voire 3m, 4m d'eau dans les maisons. Donc il n'y a plus aucune porte d'entrée au rez-de-chaussée qui est en état de fermer. Il est clair qu'une commune de 1665 habitants comme la mienne, on n'a pas les moyens de faire face à tout ce qui est, à tout ce qui a été dégradé, toutes les voiries, le pont, bon. C'est impensable qu'on puisse faire ça seul. La grosse difficulté pour les gens, c'est que c'est très lent. C'est très lent pour tout remettre en état.
Voilà, le maire de Villegayenc avec Stéphane Iglesi. Ce matin, le bilan s'élève à 11 morts dans l'Aude et 3 disparus. C'est l'un des plus meurtriers de ces 10 dernières années. La ville de Trèbes est la plus endeuillée. 6 personnes ont été tuées là-bas. C'est l'Aude qui est sortie de son lit. Thibault Lefebvre, vous êtes sur place. À quoi ressemble ce lendemain de catastrophe à Trèbes ?
Eh bien Florence, il pleut ce matin à Trèbes et il y a de la boue partout alors que l'Aude entame sa décrue. Évidemment, rien n'a été nettoyé, rien n'a bougé depuis hier soir et des dégâts considérables sont encore visibles. Des voitures encastrées, des maisons dévastées, des parpaings, des morceaux de bois, des amas de détritus déversés dans les rues selon les caprices du courant. La priorité du jour pour les secouristes qui sont déjà à pied d'œuvre, ce n'est évidemment pas le matériel mais les hommes. Des sinistrés, Florence, qui n'ont évidemment pas dormi chez eux.
Et dans ce quartier où vous vous trouvez, Thibault, 300 personnes ont dû quitter leur maison, effectivement, pour être hébergées par des proches ou dans des salles communales. Et la question qui s'impose depuis hier, c'est celle de l'alerte rouge. A-t-elle été lancée trop tard ? La vigilance orange s'est-elle banalisée ? Comme l'a dit un porte-parole du ministère de l'Intérieur, voilà ce dont ont discuté les sinistrés que vous avez rencontrés.
Oui, c'est la discussion du jour dans les centres d'accueil. La grande majorité des sinistrés n'ont pu ou n'ont su obtenir à temps l'information. C'est le cas notamment de Corinne. Elle vit depuis 20 ans dans un pavillon en zone inondable.
Personne n'est passé à la maison pour nous dire sortez les voitures ou montez les meubles. Non, rien du tout. Que dalle. Je sais qu'à une année, ils étaient passés pour nous dire il faut monter les voitures et tout ça. Mais là, cette fois-ci, rien.
Rien donc pour Corinne alors qu'elle habite à peine 300 mètres de l'Aude, mais un coup de fil d'un employé municipal pour Sophie alors qu'elle vit un peu plus haut dans une zone qui n'était pas menacée.
Vers 7-8 heures, on était déjà au courant qu'il allait avoir de sacrées intempéries quoi. Donc on a mis à l'abri le peu de choses qu'on a dehors et je comprends pas comment nous on a pu être informés et d'autres qui étaient dans des endroits qui sont très à risque ont pu être oubliés on va dire.
Et les sinistrés ont interpellé hier les autorités lors du passage du Premier ministre Édouard Philippe. Et en première ligne, comme souvent lors de ce type de drame, le maire à Trèbes, il s'appelle Éric Ménassy.
Il y avait une vigilance orange. Des vigilances oranges, nous en avons des dizaines par an, des dizaines et des dizaines. À aucun moment, il nous a été signifié que nous risquions une telle tragédie. Et c'est arrivé d'une manière imprévisible. En plus, ça s'est passé la nuit. La force des eaux était telle que rien ni personne ne pouvait empêcher son, son avancement et avec les drames qu'il y a eu.
Même son de cloche pour Édouard Philippe, qui parle lui aussi d'inondations imprévisibles et exceptionnelles.
Thibault Lefèvre en direct de Trèbes avec Olivia Branger. La brutalité du phénomène est effectivement bien connue dans la région. C'est un épisode méditerranéen, comme le sont les orages cévenols. Et Sandy Dauphin, ces trompes d'eau pour Météo France sont extrêmement difficiles à prévoir précisément.
À l'automne, la mer Méditerranée est encore chaude, elle s'évapore, les nuages sont gorgés d'eau, ces masses d'air chaud, humide et instable se déplacent au-dessus des terres, butent contre le relief, résultat pluies intenses et crues soudaines. Les épisodes méditerranéens, phénomènes atmosphériques complexes, difficiles à cartographier précisément à l'avance, explique le prévisionniste de Météo France, Étienne Capiquian.
Il faut bien voir qu'il s'agit de pluies très intenses sur une localisation géographique très précise, de l'ordre d'une dizaine de kilomètres, qu'on ne peut pas prévoir longtemps à l'avance. Ça, c'est impossible dans l'état actuel des modèles de prévision. On ne peut pas prévoir 12 heures ou même un jour à l'avance que telle ou telle commune va être frappée. Par contre, on prévoit, bien sûr, un jour à l'avance, voire deux jours, des risques de très fortes précipitations à l'échelle d'un département, par exemple. Ça, c'est tout à fait prévisible et c'est ce qui était d'ailleurs le cas pour cet épisode. On voyait venir depuis longtemps. Les orages sont des phénomènes difficiles à prévoir en termes de localisation précise.
L'année dernière, le gouvernement a décidé de lancer des campagnes annuelles de sensibilisation dans 15 départements de l'arc méditerranéen. Le risque d'inondation est le premier risque naturel en France. Or, encore trop peu de gens connaissent les gestes à adopter, ou ne serait-ce que les lieux à proximité où ils peuvent se mettre en sécurité.
Aujourd'hui, la décrue s'est amorcée dans la vallée centrale de l'Aude, mais la crue s'est déplacée en aval. Le département reste en vigilance rouge, les établissements scolaires sont fermés, la circulation des trains reste coupée entre Narbonne et Béziers. Elle devrait reprendre ce matin pour la ligne Narbonne-Castelnaudary. Pas de reprise avant jeudi matin, il faut réparer les voies. Et après Édouard Philippe hier, c'est Emmanuel Macron qui est attendu sur place. Voilà ce que l'on pouvait dire ce matin sur ces inondations de l'Aude.
Il est 8h07, Florence. Et si le plan Borloo était appliqué en catimini?
Le plan Borloo pour les banlieues, repoussé par Emmanuel Macron au printemps, il était né d'un appel des maires de banlieue, l'appel de Grigny. Il y a un an, les maires pensaient ne pas avoir été entendus. Claire Chaudière, ils se sont trompés.
Eh bien, force est de constater, avoue des élus eux-mêmes un peu surpris, que les choses bougent. Exemple, la rénovation urbaine qui était à l'arrêt, elle redémarre. 80 chantiers financés et validés en 2 mois. Ou encore ce récent plan pour le logement privé en déshérence dans les quartiers populaires.
C'est plutôt intelligent. La boîte à outils se constitue.
Philippe Rio est le maire de Grigny.
Ce qui est très étrange, c'est qu'ils ont un problème à dire on agit pour les quartiers populaires, alors qu'ils le font.
Des petits déjeuners gratuits aux places en crèche, en passant par l'appel aux entreprises à lutter contre les discriminations à l'embauche. Le frémissement est là, acquiesce perplexe Catherine Arnoux, la maire de Chanteloup-les-Vignes. Mais tout se passe effectivement comme s'il ne fallait surtout pas le dire trop fort.
Il y a des choses qui ont avancé doucement, sans le dire, un petit peu sous le manteau. Donc je ne désespère pas qu'au fur et à mesure des mois, il y a des choses qui se passent.
Je ne sais pas pourquoi ils ne disent pas. Est-ce que c'est par stratégie politique? La question des quartiers, il va falloir l'affronter. Ce gâchis reste, cette incompréhension.
Car en faisant les choses en catimini, l'exécutif se prive, ajoutent ces deux élus, d'un levier important pour recréer de la confiance envers les pouvoirs publics.
Le plan Borloo appliqué en toute discrétion, dossier complet sur franceinter.fr. Ça y est, le diesel est plus cher que l'essence dans une station-service sur 5 pour l'instant, et c'est une moyenne. C'est beaucoup plus dans certains départements. 2 stations sur 3 dans le Val-de-Marne, par exemple, selon le Parisien aujourd'hui en France. C'est la première fois que ça arrive. C'est la conséquence de la fiscalité écologique qui a augmenté les taxes sur le gasoil. Le pétrole à la source, c'est l'Arabie Saoudite montrée du doigt depuis la disparition d'un journaliste du Washington Post, critique du prince héritier Jamal Khashoggi, qui n'a plus donné signe de vie depuis son entrée au consulat saoudien d'Istanbul il y a 15 jours. Le consulat a été perquisitionné cette nuit. L'Arabie, en signe de bonne volonté, accepte de coopérer à l'enquête. Inquiète sans doute de voir boycotter son Davos du désert à la fin du mois. De grands noms de la finance américaine ont déjà annoncé qu'ils n'iraient pas, alors que les entreprises françaises, elles, restent prudentes, Victor Vasseur.
Et on sent le dossier sensible, que ce soit chez Thalès, la Société Générale, Accor Hôtel ou encore à la BNP Paribas. Ces entreprises ne sont pas très prolixes concernant leur présence à ce grand forum économique. Aucune annulation pour le moment, mais un voyage discret comme pour le patron d'EDF. Le déplacement est toujours inscrit dans l'agenda de Jean-Bernard Lévy. En revanche, on nous assure qu'il n'y aura aucune prise de parole en public, car pour EDF, comme les autres entreprises, l'Arabie Saoudite peut devenir un marché très lucratif à l'avenir. Didier Billion est le directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques.
Il y a des enjeux financiers importants, notamment dans le domaine de l'armement, bien sûr. Vous avez cité Thales, le fameux projet Vision 2030 qui a été initié par Mohamed Ben Salman est susceptible d'aboutir à la conclusion de marchés assez substantiels pour nombre d'entreprises françaises, par exemple dans le secteur des transports ferroviaires, dans le métro, etc.
La deuxième édition du Davos du désert Ariad doit être une vitrine pour l'Arabie Saoudite du prince héritier Mohamed Ben Salman, une vitrine pour son plan Vision 2030. L'objectif, transformer le pays, le premier exportateur de pétrole en géant technologique et touristique.
Et le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est en route pour Riyad. Il avait fondé Microsoft en 1975 avec Bill Gates. Le milliardaire américain Paul Allen est mort cette nuit d'un cancer à 65 ans. Il s'était fâché depuis avec Bill Gates. Il avait fondé une société d'investissement. Sa fortune est estimée à plus de 20 milliards de dollars selon le magazine Forbes.
Il est 8h11 en France. Le péril porcin est à nos portes.
La peste porcine africaine a déjà tué plus de 80 sangliers en Belgique. Elle est inoffensive pour l'homme, qu'on se rassure, mais elle fait des ravages chez les cochons sauvages ou d'élevage. Les départements limitrophes ont donc pris leurs précautions, Manuel Ruffez.
Éviter la propagation à tout prix. Sur la zone frontalière, finit toutes les activités qui pourraient soit provoquer des déplacements de sangliers, soit contribuer à la transmission du virus. Promenades, cueillettes, travaux en forêt, chasse. En Meurthe-et-Moselle, département le plus proche du foyer de contamination, on a déjà même posé des clôtures électriques. Éric Fraisse-Linard, le préfet.
Tout le week-end, en Meurthe-et-Moselle, nous avons une centaine de chasseurs qui ont travaillé d'arrache-pied et qui ont posé une trentaine de kilomètres de clôture. Et dans les jours qui viennent, c'est la Meuse, puis les Ardennes qui vont poursuivre. On espère, par ces différentes mesures provisoires, empêcher la diffusion de la maladie.
Le risque, c'est pour les élevages de porcs en France. Le virus est très agressif, il tue les bêtes. Mais surtout, si la France perd son statut dit indemne, c'est la fin des exportations dans une filière qui en a bien besoin. Thierry Chalmin de la FNSEA.
Les lois commerciales font que quand on perd un statut d'indemne de quelque maladie que ce soit, eh bien, ça nous ferme des portes immédiatement dans l'exportation. Et aujourd'hui, la viande porcine s'exporte beaucoup. Les consommateurs, ils vont pas se relever la nuit pour manger du porc, pour écluser tous les porcs qui seront plus exportés.
Les mesures de sécurité sont donc aussi renforcées aux abords des élevages de porcs proches de la Belgique.
La France, comme un gruyère médical, presque un patient sur 10 n'a pas de médecin traitant. Diagnostic d'un rapport remis hier à la ministre de la Santé. 75 caisses primaires d'assurance maladie rencontrent ce problème de manque de médecins. Voilà qui ne va pas nous réjouir ce matin. La dépression gagne du terrain en France. De plus en plus de cas recensés, 10% de la population concernée selon Santé publique France. Les femmes sont plus touchées que les hommes, Daniel Messager.
Un Français sur 10 touché chez les 18-75 ans en 7 ans, date de la dernière étude. Cela représente 900 000 personnes de plus qui vivent avec une dépression. L'état dépressif caractérisé n'a rien à voir avec le fait d'être déprimé, le terme utilisé hâtivement dans le langage courant. On parle là de fonctions cognitives ou motrices altérées, de symptômes qui touchent le sommeil, l'appétit, l'humeur. Chez les femmes, on compte deux fois plus de cas que chez les hommes. Beaucoup plus de chômeurs en souffrent, passant de 11% en 2010 à 16% en 2017, surtout lorsque la période de chômage est supérieure à 6 mois. La tranche d'âge la plus impactée est celle des 35-44 ans. Mais les hommes actifs aussi sont victimes de dépression, particulièrement dans l'hôtellerie, la restauration, la finance. Les chercheurs insistent sur le poids que cette maladie fait peser sur la société en termes de soins, d'arrêt de travail, de répercussions sur les familles. Ils soulignent aussi le désengagement qualifié d'inquiétant des labos pharmaceutiques alors que 30% des patients ne répondent plus aux antidépresseurs actuellement disponibles.
Enfin, elle qui a fini malade, pauvre et abandonnée a sans doute sombré dans la dépression. Sans le savoir, le terme n'existait pas à l'époque. La dame aux camélias d'Alexandre Dumas-Fils, adaptée au Théâtre National de Bretagne par son patron, le metteur en scène Arthur Nosiciel. 3 heures de spectacle à Stéphane Capron pour un voyage dans l'histoire de la très courte vie de cette héroïne, Marguerite Gauthier.
Pour interpréter Marguerite Gauthier, il fallait une grande actrice. Arthur Nosiciel a confié le rôle à Marie-Sophie Ferdane. Silhouette gracile, longiligne, sensibilité incandescente, elle traverse ces 3 heures avec une grâce inouïe, 3 heures de tension pour raconter une vie tourmentée.
C'est une jeune fille qui vivait dans un tout petit village dans l'Orne, qui est montée à Paris dans une misère crasse, prostituée par son père, et qui, à 13 ans, pour survivre, se prostituait dans les carrières de Paris. Et qui, quelques mois avant de mourir, rencontre un jeune homme qui lui dit « Moi, je vous propose un pari fou, je vous propose de découvrir l'amour ». C'est juste avant la dernière respiration et elle s'engouffre là-dedans, dans une vie de misère, dans une vie âpre et difficile, une vie qu'elle paye.
Les tableaux sont tendres et mélancoliques, rien à voir avec l'agitation du roman. Arthur Nosiciel prend son temps.
On n'a plus l'habitude d'écouter. Et d'un seul coup, le fait qu'on crée de l'écoute, tout simplement, donne au spectateur le sentiment de la lenteur. Mais c'est pas le cas, en fait. C'est le temps, c'est un temps réel, en fait.
La scénographie dans un bel écrin rouge passion est magnifique. C'est du cinémascope au théâtre. D'ailleurs, Arthur Nosiciel rend un hommage appuyé au cinéma de Kubrick avec sur scène le célèbre phallus géant utilisé dans Orange Mécanique.
Et vous avez reconnu la musique de Verdi pour cette Dame aux Camélias, mise en scène par Arthur Nosiciel jusqu'au 21 octobre à la scène nationale de Sceaux, puis en tournée ailleurs en France.
Merci Florence Paracuelos.